CQFD, le magazine scientifique et médical de la première. Bastien Confineau.
Chaque année, 15 millions de bébés naissent prématurément, c'est-à-dire avant la fin des 37 semaines de grossesse, ce qui entraîne des risques plus élevés de présenter des troubles cognitifs et sensoriels, mais aussi une infertilité à l'âge adulte. Et si le monoxyde d'azote était la solution? C'est ce que révèle une étude française avec la participation de la Suisse et de la Grèce, parue dans la revue Science Translational Medicine, Sarah Birène.
Oui, et c'est en travaillant sur une maladie rare, l'hypogonadisme hypogonadotrope congénital, que les scientifiques ont découvert le potentiel thérapeutique du monoxyde d'azote. Vous allez comprendre, Bastien, pourquoi. Alors, cette maladie rare, ce syndrome de Kallmann, entraîne un retard ou une absence de puberté, ainsi qu'une possible infertilité à l'âge adulte. Pourquoi? Eh bien parce qu'une hormone présente dans le cerveau fait défaut. Hormone qui dit en quelque sorte à nos organes sexuels, allez, vas-y, produis des gamètes. Alors du coup, les scientifiques se sont intéressés aux neurotransmetteurs, aux enzymes qui produisent cette hormone. Ce neurotransmetteur est notre monoxyde d'azote.
Ok, très bien. Alors une fois qu'on a découvert le rôle de ce monoxyde d'azote dans la production de cette hormone qui dit à nos gonades, fabrique des gamètes, qu'ont fait les chercheurs?
Eh bien, ils ont créé des modèles de souris dépourvus de cette enzyme afin de mieux comprendre le rôle des enzymes, des neurotransmetteurs dans la production de cette hormone. Ils ont mené une série d'expériences en administrant, par exemple, du monoxyde d'azote à un moment très précis chez la jeune souris. Les résultats sont vraiment, mais vraiment prometteurs, non seulement dans le domaine de la fertilité, mais aussi dans celui des troubles cognitifs ou troubles sensoriels. Un essai clinique vient d'être lancé en France et en Grèce sur 120 patients.
Bonjour Vincent Prévost.
Bonjour.
C'est vous qui avez dirigé cette étude. Vous êtes directeur de recherche à l'INSERM, responsable de l'équipe développement et plasticité du cerveau neuroendocrine à l'hôpital de Lille, donc au nord de la France. Le monoxyde d'azote, Sarah est très enthousiaste sur ce monoxyde d'azote. C'est le Graal?
Oui, en fait, nous avons découvert que ce monoxyde d'azote va contrôler une semaine ou un mois après la naissance l'amplitude de la première activation de cet axe qui va contrôler la fonction de reproduction plus tard dans la vie, qui s'appelle la mini-puberté. Or, les enfants qui naissent prématurés, en fait, ont une mini-puberté exacerbée. Notamment, la petite fille va avoir des taux d'hormones circulantes qui sont le témoin de cette mini-puberté 200 fois plus élevé que les petites filles nées à terme. Or, on sait très bien que les enfants nés prématurément vont avoir plus de risques de développer des maladies de la cognition et ou du diabète, de la fertilité plus tard dans la vie. Et ici, on a découvert qu'en contrôlant cette amplitude de la mini-puberté, en donnant du monoxyde d'azote, en tout cas à ce modèle de souris qui a aussi une mini-puberté exacerbée, eh bien on corrige tous les désordres qui pourraient apparaître plus tard dans la vie.
Mais ça veut dire que vous administrez du monoxyde d'azote à un moment précis, sur combien de temps?
En effet, on injecte le monoxyde d'azote par voie inhalée pendant les premières semaines de vie seulement, les deux premières semaines de vie, et cette exposition très courte au monoxyde d'azote inhalé, eh bien, corrige pour toute la vie, en fait, les problèmes qui auraient pu émerger dans le futur.
Oui, comme si la machine cérébrale se remettait en route, c'est un peu ça?
Exactement, on pense que en fait c'est clé pour marquer la fin, l'action du monoxyde d'azote marque la fin d'un programme de développement jusqu'aux quelques premières semaines de vie, jusqu'à un mois d'âge par exemple chez l'enfant, et dit au cerveau, voilà, on va passer à une deuxième étape du développement qui va permettre d'arriver à l'âge adulte en toute sérénité.
Alors, ce qui est très étonnant, Vincent Prévost, c'est que, alors d'une part, le monoxyde d'azote coûte cher, vous pouvez le remplacer, c'est surprenant, le remplacer par du Viagra. Quel rôle joue le Viagra dans la production de ce monoxyde d'azote? Ou pas, enfin, quel rôle il a?
En effet, donc déjà l'administration du monoxyde d'azote chez l'enfant, c'est quelque chose qui est fait communément chez les enfants qui naissent prématurément pour leur permettre d'ouvrir les voies respiratoires et donc de vivre, tout simplement. Et parfois, il y a certains enfants qui, même après 48 heures d'exposition au monoxyde d'azote inhalé qui est délivré à l'aide d'un masque, eh bien, ils n'arrivent pas à respirer correctement. Et du coup, les médecins sont obligés de changer le mode de traitement. Et en effet, ils administrent à ces enfants du Viagra. Et le Viagra, en fait, va augmenter ce qu'on appelle la demi-vie de l'action du monoxyde d'azote, c'est-à-dire il va empêcher au monoxyde d'azote de dégrader son action, en fait, et va la prolonger.
Vous dites que ça fait longtemps qu'on donne du monoxyde d'azote à ces bébés prématurés. Ça veut dire qu'on connaît déjà tous les effets secondaires ?
Ou pas ?
Donc là, vraiment, ce monoxyde d'azote est donné pour permettre à l'enfant de vivre. Donc c'est vraiment une mesure d'urgence. Et là, dans l'essai clinique que l'on est en train de conduire à Lille, pour savoir justement chez les enfants chez qui on prolonge ce traitement sur un mois, par exemple, de savoir si cela va améliorer leur pronostic plus tard dans la vie. Mais ce traitement n'est appliqué, on ne choisit pas les enfants qui vont recevoir ou pas ce traitement. Ce sont vraiment les enfants qui ont besoin de ce traitement qui vont être inclus dans ce bras. Et on va comparer avec ce qui se passe chez des enfants qui ont un niveau de gravité assez comparable, mais qui ne reçoivent pas ou qui n'ont pas besoin de recevoir ce monoxyde d'azote pour survivre. En fait.
Mmh. Alors si vous avez pu mettre en évidence, Vincent Prévost, ce dialogue très fin entre le cerveau et les organes, hein, parce que c'est votre spécialité, c'est grâce à une cohorte au CHUV, une cohorte européenne de plus de 340 patients atteints de ce syndrome de Kallmann. C'est une base, j'imagine, extrêmement précieuse hein, pour observer notamment les mutations génétiques, puisque c'est une maladie génétique, donc qui se transmet.
Oui, en effet, cette étude a été pilotée de concert avec le professeur Nelly Piteloup au CHUV de Lausanne, qui est généticienne et qui est spécialiste du syndrome de Kallmann et qui prend en charge ses patients. Et notamment, pour pouvoir les prendre en charge, il est extrêmement important d'essayer de trouver quel gène est muté chez ce patient afin de pouvoir lui proposer un traitement approprié. Et c'est grâce donc au séquençage de ces plus de 300 patients que l'on a pu découvrir que 2% d'entre eux avaient une mutation dans le gène qui code pour l'enzyme qui produit le monoxyde d'azote.
Mmh. Mais donc ça veut dire que vos résultats, c'est quoi ? Un espoir non seulement pour les prématurés qui demain risquent d'avoir des problèmes d'infertilité, mais également pour les personnes atteintes de ce syndrome de Kallmann ?
Alors oui, donc là, c'est un immense espoir pour pour les enfants qui naissent prématurément et leurs familles, savoir si ce traitement monoxyde d'azote va pouvoir améliorer la qualité de vie, les qualités d'apprentissage et diminuer les risques de développer des maladies dites non communicables chez ces enfants. Donc ça, c'est très important. Et par ailleurs, donc cette étude est conduite dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle MINO, dans lequel la professeure Nelly Piteloup est impliquée aussi. Et donc, nous, on regarde l'effet du HENO sur les enfants prématurés. Et quant à elle, la professeure Nelly Piteloup va regarder, en fait, le rôle de cette mini-puberté sur le développement de l'axe de la fertilité. Et en effet, chez des patients chez qui elle va identifier une mutation pour cette enzyme qui produit le monoxyde d'azote, eh bien, en donnant à ses enfants du monoxyde d'azote pendant cette période de la mini-puberté, il est possible que cela corrige du moins certains des déficits que ces patients vont développer plus tard dans la vie.
Voilà, déficit par exemple sensoriel aussi.
Sensoriel et cognitif et peut-être restaurer partiellement la fertilité.
Ça veut dire que ce monoxyde d'azote, qui semble un peu être le Graal, pourrait aussi soigner d'autres maladies ?
Alors ça, c'est une question tout à fait intéressante. Alors, savoir si, par exemple, on traitait les enfants prématurés à l'âge adulte, devenus adultes, avec des donneurs de monoxyde d'azote ou le Viagra, est-ce qu'on améliorait leurs conditions ? Ça, c'est quelque chose qu'on va tester dans nos modèles de souris. Et par ailleurs, il y a eu des essais déjà par le monde pour prendre en charge des maladies neurologiques telles que la schizophrénie. Il y a eu quelques essais cliniques qui ont essayé de donner du monoxyde d'azote à ces patients. Mais voilà, donc c'est une piste, en effet, ce monoxyde d'azote, et ça peut être une piste thérapeutique pour la prise en charge de certains désordres.
Merci beaucoup Vincent Prévost pour ces réjouissantes nouvelles. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'INSERM, responsable de l'équipe développement et plasticité du cerveau neuro-endocrine à l'hôpital de Lille. On vous souhaite une très très bonne journée dans le nord de la France.
Merci beaucoup, au revoir.
CQFD à 10h sur la première.